Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcan, les grandes entrevues de la semaine.
Parlons du stade olympique, du parc olympique en général. Ce matin, on a vu le premier ministre Legault, quand on l'a interrogé sur le sujet, dire « ben moi, je tiens beaucoup au stade ». Et puis oui, il va falloir faire les travaux pour ce qui est de la toiture, puis peut-être de l'anneau, parce que ça demeure un symbole qui attire beaucoup de touristes. Les Montréalais, bien sûr, mais les touristes. Michel Labrec est avec nous, c'est le patron du parc olympique. Michel Labrec, bonjour.
Bonjour, M. Arcan.
Bon! Oh! On commence par quoi? Le toit?
Écoutez, choisissez, c'est vous qui menez.
Oui, mais non, mais en fait...
Si vous me demandez quand, là, vous vous souvenez la dernière fois, oui. Je vous avais dit, il n'y a plus de date.
Non, hein,
y a
ça, plus je de le date. Sais.
Là, ce que je vois, là, parce que on a changé de mode d'approvisionnement, on travaille avec GPC, qui est Pomerlo, Canam et Walter, donc d'autres partenaires. Ce que je peux vous dire, là, puis ça, là, je donnais des dates avant, mais fin de l'année, début de l'année prochaine, on va remettre le dossier d'affaires au gouvernement. C'est la Société québécoise des infrastructures qui après fait ce qu'on appelle le processus d'attestation. C'est toute une procédure que le gouvernement s'est donnée pour arriver à un projet solide avec les prix bien documentés ou les estimer bien documentés. Donc, c'est une décision là, dans les prochains mois. Là.
Est-ce que vous présentez des options? Est-ce que vous dites au gouvernement...
Non.
C'est une recommandation.
C'est une recommandation. Elle est basée sur un... Quand on a fait l'appel de la qualification, on a dit au gouvernement... On a dit à l'international, là, voici le concept de référence. On veut pas un toit ouvrant, on veut pas un toit escamotable, on veut quelque chose d'éprouvé. Puis on veut qu'un groupe se constitue autour de la qualification, constitué d'ingénieurs, d'architectes, d'un constructeur, de financiers. Donc, on veut que le groupe se présente. Il y en a seulement un qui s'est présenté. Puis on a dit au gouvernement, est-ce qu'on retourne à l'international pour voir s'il y a d'autres groupes ou on fait affaire avec eux? Le gouvernement a dit, poursuivez avec eux. Puis cet été, on a décidé de... Parce que là, on était en attente d'une proposition avec un prix. Puis on a décidé, compte tenu de la complexité, hein, je vous l'ai déjà dit, si c'était simple et facile, on aurait réglé ça vite. C'est complexe, puis il faut payer le prix juste. Donc, on décide là d'être en mode, donc, de solution avec des estimés justes.
Mais est-ce que c'est vrai que là, on parle simplement du toit, mais de l'anneau technique aussi au complet.
Oui, l'anneau technique. Oui, c'est nouveau. En cours de processus, nous, on a une firme d'ingénieurs WSP, mondialement connue, avec des bases québécoises. Et puis donc, on a fait l'analyse donc de la capacité portante du stade en fonction.
Mais c'est pas ça qui tient le stade.
Non, pas du tout. Non? Pas du tout. Je vais vous donner là. On a le stade là, c'est 38 consoles. Il y en a 4 sous la tour, puis il y en a 34 individuels. Hein, c'est comme ça. Il y a 34 poteaux dans le sol. Tout ça est indépendant. Puis ce qui relie ça, finalement, beaucoup plus, ce sur quoi vous êtes assis, les gradins, les poutres relient chacune de ces consoles-là. Fait que donc, ce que vous voyez au-dessus de votre tête, c'est un fléau. Puis je dirais, là, vous prenez une cuillère en bois, puis vous mettez un ravioli au bout, là. C'est pas l'anneau technique qui tient le stade. L'anneau technique s'appelle technique. Parce qu'à l'intérieur, il y a la ventilation, de l'électricité, de l'éclairage. Donc, il est technique parce qu'il est composé d'équipements techniques. Mais il n'y a pas de dimension structurelle. Les poteaux sont complètement indépendants. Puis quand vous regardez les photos sur notre micro-site, vous voyez bien hein, que c'était comme les côtes de la cage thoracique flottante sont indépendants, puis ils bougent légèrement. Puis l'anneau technique, bien sûr, il est jointé après. Il est attaché avec deux câbles, deux tendons. Puis ça va être démonté section par section, remplacé par de l'acier. Souvenez-vous que la tour a été complétée en acier. Elle était partie en béton. Puis quand on a vu que les appuis de néoprène s'enfonçaient parce que le flouage du béton, c'est technique, là, on l'a complété en acier. Donc, ce qu'on fait, c'est que plutôt que de renforcer les structures en fonction du code du bâtiment, on va remplacer les sections d'anneaux techniques, on va mettre les équipements nouveaux à l'intérieur, parce que les lumières au mercure, là, fini. La compagnie en fait même plus. Puis on va remonter ça spatialement en haut.
Et ce toit, là, puis là, je comprends les travaux pour ce qui est de l'anneau technique, c'est très clair, là. C'est pas un toit qui va être rétractable, non. C'est un toit qui va être fixe.
Oui.
Et c'est un toit qui va couvrir l'espace de jeu,
oui, puis je vous
à l'année.
Exact. Puis je vous invite à aller voir sur le microsite de la toiture, dans un document sur l'appel de qualification, page 28 et 31, on décrit ce qu'on voulait comme concept de référent. Après, le propos, celui avec qui on travaille pour une solution, là, pour Merlot, Canam, Waterpik, eux ont amené leur technique de construction, leur approche au projet. Mais on travaille sur aussi un ellipse en verre qui va translucide, pas transparent, qui va laisser passer de la lumière à l'intérieur le jour, qui pourra éventuellement être obstrué si on veut faire la nuit pendant le jour. Et donc, la partie métallique, je vous rappelle une chose aussi, c'est la tour qui tient le toit avec les câbles. 70% du toit est tenu par la tour. 30% par les 38 consoles, les 34 indépendantes, puis les 4 sous la tour.
Le projet de l'aîné.
Oui.
Qu'on a vu à Découverte, là, qui rebondit depuis.
Oui.
OK. Est-ce que ça a été étudié?
Je vais être très clair. Ça fait une vingtaine d'années que M. Delaney puis le parc se fréquente. On a toujours dit à M. Delaney, si vous constituez un groupe, dans le concept de référence, il n'y a pas d'ouverture. Puis si vous voulez constituer un groupe avec des firmes d'architectes, d'ingénieurs, faire des essais en soufflerie puis déposer votre candidature, c'est ça le processus que le gouvernement nous indique quand on veut faire de l'approvisionnement puis remplacer la toiture. Fait que donc, c'était pas un concours Lépine. Vous souvenez d'idée? Vous vous souvenez, je vous avais dit, on cherche pas quelqu'un là qui va avec une montgolfière boucher un trou. On veut quelque chose qui architecturellement va représenter, respecter minimalement ce que le travail de M. Taillibert. On veut une solution éprouvée par des compagnies qui en ont fait. On veut des gens qui ont fait des toits comme Canam. On veut des gens qui sont capables de construire un projet comme celui-là d'un haut niveau de complexité. Pas Merlot, là, il y a démantelé morceau par morceau avec des grues spéciales le pont Champlain. Je veux dire, en matière de travaux, ils s'y construisent. Walter P. Moore dans les stades. Donc, amener une candidature dans le cas de M. Delaney, sa proposition, elle peut paraître intéressante, mais est-ce qu'elle a été éprouvée? Est-ce qu'il y a à son crédit des expériences de ça? Est-ce qu'il y a autour de lui des gens qui sont spécialistes? Quand il invoque le groupe Dessault, le groupe Dessault à la fois lui avait dit, oui, on a regardé ça, c'est bien, mais Dessault avait écrit à M. Delaney, promenez-vous pas avec notre nom en disant qu'on vous a dit que le projet est extraordinaire. Là. Quand on regarde ça de bord, mais il y a beaucoup d'études amenées pour voir si c'est viable. Donc, c'est un projet, on le connaît, M. Delaney, on a dit le projet, il voulait me voir personnellement, j'ai dit, inscrivez-vous à la firme au lobbyiste, là, au registre des lobbyistes, c'est fini d'aller jouer des foursomes de golf ensemble avec les promoteurs, c'est fini ce temps-là.
On dit que le baseball va probablement procéder à une expansion au cours des prochaines années. On a réglé deux dossiers, le Tampa et Oakland. Est-ce que vous entendez des choses, parce qu'il y a eu des rumeurs, que des gens avaient peut-être approché le stade pour une éventuelle utilisation sur une base temporaire?
Pas du tout. Je sais que notre vice-président avait rencontré l'ancienne équipe de promoteurs du retour
Bronfman,
du Bronfman, puis les gens qui étaient autour de M. Bronfman pour dire nous, puis j'ai répondu, c'est pas, le baseball à Montréal, là, le stade a été construit pour ça. Les Olympiques, c'était le prétexte. Sa cinquième candidature, quand Drapeau revient en 70 avec ça. Donc, le baseball, là, les Olympiques, c'était le prétexte. Le baseball, on a construit un stade pour le baseball des Expos. Le stade a été fait en arrière, là, du marbre, c'est plus gros que de l'autre côté, chansant. Bon, il y a des gradins escamotables. Ça se modifie. Puis on a toujours dit, on était là, on peut être là avant, pendant, après. On est prêt à recevoir le baseball n'importe quand. Pas de problème. Mais on n'a pas présentement aucune indication d'un projet crédible d'achat d'une nouvelle équipe à un milliard et demi.
Un autre exemple, là.
Allez-y.
Mettons que tout ça se fait, tout ça est réglé, la nouvelle structure est installée.
On part pour 50 ans. C'est un toit de durée de vie de 50 ans.
Est-ce que Taylor Swift va pouvoir donner un spectacle au Stade olympique parce que le son va être bon?
Regardez, ça c'est sûr et certain, M. Arcan, que dans nos priorités, une fois, si on va de là, si le gouvernement, une fois le DA déposé, décide d'aller d'avant, on prend cette décision-là... Le gouvernement nous a demandé qu'est-ce qu'on fait en priorité. On a reçu Metallica. Le son était correct, surtout le dimanche. Il était plus que correct, à mon avis. Moi, en acoustique puis en sonorisation avec les technologies modernes, là, on va régler ça. Taylor Swift, elle va le remplir. Mais c'est pour ça qu'on a ramené avec Live Nation un spectacle. On a géré 90 000 personnes avec la Fierté Gay le dimanche soir. Donnez-moi un stade dans le monde qui sort en 15 à 20 minutes, hein? 65 000 personnes, 25 000 sur l'esplanade, deux stations de métro en dessous à 1,5 milliard la station, 4 000 places de stationnement comme ça. Je peux vous dire là qu'on était extrêmement fiers de notre équipe. Il n'y a pas d'autre stade aussi bien situé.
Mais la tendance en Amérique et probablement dans le monde, on va construire des stades et autour, voir des bars, des restaurants, des hôtels, des édifices à bureaux.
Regardez le potentiel du côté de Viau, entre Sherbrooke puis Hochelaga. Regardez le potentiel qu'on a au long du 41-41. On a des bureaux, on vient de sortir de là, justement pour faire des commerces de proximité. Le potentiel là, autour, là, regardez le terrain. Il y a des projets qui vont être annoncés prochainement. Regardez le terrain devant le centre Pierre Charbonneau, anciennement Maisonneuve. Mais moi, je vous dis, cette qualité-là du déambulatoire là, dans le quartier...
Un lieu
là,
de rassemblement. Là.
C'est pas, on vient de refaire Vers Viau qu'on a inauguré. Vers Viau, là, ça part du métro Viau, ça se rend jusqu'à la tour puis au stade du FC ou du CF. Et donc, on peut aménager. On avait aménagé des petites tentes avec de la restauration. On peut avoir des camions de bouffe de rue. Je veux dire, c'est pas toujours de la restauration fixe. On prend le métro, on descend à Pinneuf ou à Viau. On est au centre-ville, 8 stations, c'est 16 minutes.
Mais ce qui est quand même frappant depuis les dernières années, on parle beaucoup du stade, mais c'est le réaménagement de l'ensemble, du parc olympique.
La ville, c'est 1,5 milliard de dollars. Pierre de Coubertin est refait. Les deux stations sont faites. Le biodôme s'est refait une beauté. L'insectarium a été refait. On a un stade de soccer. On a un planétarium qui s'est installé. La tour est rénovée. Elle est louée à 100%. Les 14 étages, Desjardins Sigma RH, centre sportif, 10 équipes nationales. On a refait, avec l'INSQ, on a des bébés dans la piscine puis des athlètes olympiques. Après ça, on refait l'observatoire. On change le funiculaire après 1 million de voyages. Vous allez regarder sur le site, vous allez pouvoir monter sur le toit. Il va y avoir une paroi de verre. Il va y avoir une passerelle vertigineuse comme à CN Tower. Vous allez vous accrocher avec des mousquetons. Je vous invite gratuitement, M. Arcand. Vous allez vous promener dans le vide.
C'est pas ma tasse de thé, mais quand même, si j'apprécie la proposition.
Il y a une cohésion extraordinaire autour
du
parc.
C'est vous ce qui me frappe dans ce que vous dites, c'est que on parle beaucoup, M. Legault parlait des Français qui venaient puis des autres.
Oui.
Mais ça, c'est le réflexe qu'on a. On visite pas ce qu'il y a dans notre cour.
Richard Legendre avait une expression extraordinaire. Richard Legendre, là, qui a été donc avec l'Impact puis qui est maintenant professeur à l'université, il disait, Michel, si on avait dit qu'on créerait ça, un lieu de 6 millions de personnes qui passent, 3 millions de touristes, de visiteurs, un potentiel, le monde nous aurait pas cru. C'est juste le stade puis les installations, 6 milliards. Les systèmes autour, 3 milliards. Deux stations de métro, un SRB, 4 000 places de stationnement. Donnez-moi un stade qui a 4 000 places de stationnement. C'est pas des îlots de chaleur.
Mais en vacances, on irait visiter ça dans un autre pays. On oublie des fois que c'est juste dans le
Regardez bien. Là. Pour moi, je suis extrêmement enthousiaste parce que c'est passionnant. C'est quelqu'un me disait l'autre jour, dis pas que c'est complexe, dis que c'est sophistiqué. je trouve que le mot est beau et pour moi. Après ça, j'ai le même âge que François Legault. À 12 ans quand les expos sont arrivés, 13 ans quand le drapeau est revenu d'Amsterdam avec la 5e candidature, on est juste 76. Fait que donc c'est vrai que ça fait partie de la modernité, c'est vrai. Après ça, la décision sur la toiture, elle est difficile. C'est une décision d'État. Comme quand René Lévesque a décidé de compléter la tour, quand on disait ne la complétez pas, on l'a complété en acier, on a été allé chercher la SEBJ pour nous accompagner. Madame Proulx là, moi toutes les semaines a su le dossier, est extrêmement engagée, j'adore travailler avec puis pour elle. Donc, on a réuni ce qu'il faut dans les prochains mois. Là. Avant, je voyais pas où. Dans les prochains mois, au retour des fêtes, tout ça, on présentera quoi au gouvernement puis il va prendre sa décision. Elle est pas facile.
C'est quoi le taux d'occupation du stade et qu'est-ce qui va changer quand les...
Premièrement, moi, qui vous dit qu'on n'aura pas une autre équipe professionnelle qui va venir là? Hein? Qui vous dit? Il y en a deux à Montréal. On va repartir. Les spectacles. À peu près, on pense 25 spectacles par décennie.
Les équipes penseriez-vous à ramener les Alouettes, par exemple?
Pourquoi pas? Pourquoi pas une équipe de soccer, football féminine au stade? Pourquoi on a une fois qu'on est reparti là, puis qu'on n'est pas en train de se dire, hein, comme les Gaulois, le ciel va-tu nous tomber sur la tête? Va-tu mouiller? Va-tu neiger? On va être apaisé. Il faut terminer ce projet-là. Il faut le terminer. Monsieur Marcel Dutille de Canam. le père, là, c'est Marc maintenant, là. J'ai regardé, là, il dit, Michel, là, moi, j'ai ça sur le cœur un petit peu. C'était un projet de société. On a ce stade-là, c'est extraordinaire. Il dit, je suis convaincu qu'on est capable d'y arriver. Je suis convaincu qu'on peut mettre un toit.
Je suis la break. Merci d'être venu ce matin.
Merci. Merci.
Vous voulez plus de balado C23? Rendez-vous dans la section balado du 985fm.ca ou dans l'application Cogeco Média. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine.
Ici les gens me regardent, les gens me regardent. Si j'étais fou, tu sais, Milo, ici les gens me regardent, les gens me regardent, mais pour toi je m'en fous.
Alors, c'est un matin de livres et de musique avec notre invité, Adib Al-Khalidé. Bonjour.
Bonjour.
Je vais commencer avec la musique.
OK.
D'abord, si j'ai bien compris, au début, là, il n'y avait pas un lien direct à Adib, OK, là, mais le nom de famille était camouflé dans la présentation?
Tout était camouflé dans le premier album. Là.
Oui, ouais. C'était comme je le fais, mais je veux pas qu'on le sache.
Oui, c'est bizarre. Je pense que c'était un gros step là, dans ma vie de passer d'une étiquette à l'autre, si on veut, là, d'humoriste à auteur, compositeur, interprète ou whatever. Puis c'était plus simple pour moi à ce moment-là pour le faire de pas mélanger les cartes. Mais maintenant, ça fait deux albums que j'ai tout ramené sous la même bannière qui est Adib.
Et ça prouve que ça marche.
Ouais, puis ça prouve aussi que genre. Je suis confortable maintenant dans ma propre identité, dans ce que moi je perçois de moi.
Et ton identité musicale, c'est quoi?
Franchement, c'est pas compliqué. Moi, je rentre en studio. Généralement, je compose tout seul. Je laisse sortir ce qui sort. Je pose pas vraiment de questions sur le style, sur. Plus j'écoute ce que je fais, plus j'ai l'impression que ça voyage quand même dans les styles. Puis je garde ça vraiment très très fluide, très simple. Puis en même temps, ce dernier album-là, j'ai eu la chance de faire les maquettes tout seul, mais de travailler avec des musiciens extraordinaires après en studio. Fait que ça a donné quelque chose qui, selon moi, ça ressemble pas du tout en fait aux deux premiers albums.
Est-ce que j'ai bien compris le titre?
Est-ce que vous voulez que je le dise?
Je pense que c'est préférable.
Salle arabe en thérapie ou les charmes discrets d'un transfuge de classe.
Bon, alors ça veut dire quoi ça?
Ça veut dire quoi? Moi, je pense que si je veux rester candide, parce que ça reste pour moi un album qui est assez candide, c'est l'album que j'aurais aimé écouter quand moi j'étais plus jeune, que je traversais des choses que je trouvais difficiles, puis que ça fait du bien d'entendre une histoire qui nous permet de mettre des mots sur notre expérience. Fait que c'est étrange à dire comme ça, mais c'est un peu comme une berceuse pour moi réconfortante de ce que j'aurais voulu entendre plus jeune, des épreuves que j'ai traversées, venir de la classe populaire, pas savoir où est-ce que tu t'en vas dans la vie, décider d'aller faire de l'art par extrême survie, se faire renier par ses parents, arriver dans le monde médiatique puis se retrouver encore plus seul que jamais. Puis tout ça, c'est ce que pour moi ça raconte un peu cet album-là.
Mais ça devient des repères pour des jeunes. Je pense à des ados, par exemple. On a tous une crise d'identité, là, oui. Comme tu viens de décrire. Mais par exemple, quand t'es issu de l'immigration, ouais. Direct ou indirect, là, ça vient ajouter aussi puis des stéréotypes qui sont charriés. Puis toi, tu sais-tu comment par rapport à l'école? Puis ça, c'est un tourbillon à cet âge-là.
Ouais.
Toi, tu l'as vécu durement, je pense.
Ouais, moi, je je veux dire, comme sans rentrer dans les détails nécessairement, tu sais, je pense qu'il y a toujours une façon de raconter son histoire et de sentir que finalement ça nous connecte avec les gens. Puis tu sais, moi je suis tu sais, entre l'âge de 0 et 10 ans là, tu sais, j'ai déménagé peut-être 10-12 fois, j'ai habité à Cartierville, Montréal-Nord, Ville-Saint-Laurent, Côte-des-Neiges, Hull, j'ai même habité aux États-Unis. Tu sais, je veux dire, ça crée une vie où est-ce que t'as pas beaucoup d'amis, t'es souvent seul, trimballé d'un endroit à l'autre, tu recommences tout le temps à zéro. Puis finalement, peut-être que quelqu'un peut percevoir mon histoire comme étant un immigrant qui raconte l'histoire d'un immigrant, mais moi, je l'aperçois plus comme je suis un Québécois qui raconte son histoire, puis je me sens pas différent, mettons, d'un gars ou d'une fille de Beauce qui arrive en ville.
Ouais, puis quelqu'un de Schlager-Maisonneuve qui a roulé sa bosse.
Exactement, puis qui raconte aussi son histoire. Puis dans cet album-là, c'est incroyable le nombre de gens qui connectent. Il y a une chanson qui s'appelle « Pas assez ». Puis ça parle de... Le refrain dit « Pas assez arabe pour tous mes amis arabes, définitivement pas assez blanc pour tous mes amis blancs. » OK? Et puis j'espère que les gens vont écouter la chanson. Et dans cette chanson-là, c'est fou le nombre de gens qui ne sont pas d'origine arabe, qui m'en parlent, des Québécois de souche qui m'en parlent comme étant leur chanson préférée de l'album, parce que, dans le fond, ça parle du sentiment d'être pas assez. Fait que c'est là où je réussis, je pense, dans ces chansons-là, à créer quelque chose d'universel. En tout cas, pour ma part, c'est comme ça que je le sens.
Ouais. Parler du livre, je te le disais avant qu'on entre en onde, lire un spectacle, c'est une expérience en soi.
Ouais.
Ça s'appelle Québécois tabarnak spectacle. Et là, au début, je me disais, bon, ben, OK, spectacle, il va y avoir des moments, des espèces de captations. Non, c'est on entre au début du spectacle, puis on sort à la fin.
Ouais.
Et là, j'ai compris, et c'est une préface de Kim Thuy, t'avais pas envie de faire ça, que ce produit-là existe.
Moi, j'ai jamais pensé que ce spectacle-là deviendrait le coup de cœur que c'est devenu chez les gens. Ça crée pour moi une proximité qui va au-delà de la vie artistique. Ça m'a ramené, on dirait que ça a insufflé un caractère humain à mon travail, OK, qui à la base je le percevais plus comme, mettons, un travail de performance. Il fallait monter puis donner quelque chose, puis il fallait que les gens aiment ça. Ce spectacle-là, il a créé le volet humain de la chose. Puis le nombre de gens après les spectacles, parce que moi, je reste après les spectacles comme bien des humoristes pour discuter avec les Québécois, puis le nombre de gens qui me disaient « Je veux le texte de ce spectacle. Je veux le texte. » Il y a une dame qui est revenue voir le spectacle 7 fois.
Mais c'est un regard sur nous, là, les Québécois de souche. Puis là, je dis pas ça là au niveau de la caricature. Là.
Ouais.
C'est important que de se faire mettre un certain miroir en disant la façon dont vous exprimez vos réactions, qui peuvent être comiques parfois, mais c'est comme ça que moi, je vous vois.
Ben, oui, peut-être. Puis je pense qu'il y a plusieurs interprétations. Moi, j'ai entendu plusieurs interprétations différentes, mais oui, il y a une observation peut-être sur les Québécois de souche, mais il y a une observation aussi sur l'immigrant.
Absolument.
Parce que moi, je pense que ça fait pas nécessairement plaisir à la posture de base de la personne immigrante que j'étais, parce que je pense que ce que le spectacle dit, parce que je continue à réfléchir, je pense que ce que ça dit, c'est appartenir, c'est un choix. OK? T'attends pas que l'autre individu, un autre individu vienne te confirmer que tu appartiens. T'attends pas que quelqu'un vienne te dire, hey, tu sais, la fois que t'as vécu ça, ou telle chose que t'as pas appréciée, ou tel acte que t'aurais voulu ne pas vivre pour ne pas te sentir différent. T'attends plus que quelqu'un vienne guérir les plaies de ta condition. Tu les guéris toi-même et tu choisis que t'appartiens. Parce que si tu choisis pas que t'appartiens, tu ne peux pas contribuer. Puis moi, je pense que c'est vraiment dans la contribution que je trouve mon bonheur. Moi, je suis pas heureux quand je suis pas en train de faire un effort. C'est vraiment dur d'accepter ça de moi. Genre, il faut que je fasse un effort qui donne un sens à ma vie pour être heureux.
Mais et là, je peux me tromper. Là. Ouais. C'est vraiment au niveau de la perception là, en lisant le spectacle. Mm-hmm. Mais j'ai l'impression des fois que tu dis, il y a beaucoup de gens qui parlent en notre nom ou qui s'approprient des choses ou revendiquent. Puis c'est pas moi. Puis moi, j'ai envie de vous dire, voici ce que je pense. Vous avez le droit d'aimer, pas aimer, puis tout ça. Mais,
ouais,
tu sais, de se faire traîné par des lobbies parfois. Puis là, tu dis, ben moi, je perçois comme en disant, voici ce que j'ai envie de vous dire. Puis c'est ça que je pense.
Ben vous avez probablement aussi ressenti, en tout cas, il y a beaucoup de gens qui ressentent que ce sont des enjeux qui ont été politisés, tu sais, dans les derniers temps. Moi, j'ai naïvement, je pensais que parler de ça, j'étais vraiment naïf. Hein. Plus je vieillis, là, plus je réalise.
Plus t'es naïf ou moins?
Que je suis, tu sais, c'est... Faut vraiment accepter de regarder en arrière en disant « je ne savais pas », puis... De voir à quel point ces enjeux-là peuvent être politisés puis être utilisés, déshumanisés dans le fond, ça me donne envie de me concentrer sur des éléments qui sont plus proches de l'individu et de jamais espérer que l'État intervienne dans ces enjeux-là. Aujourd'hui, là, moi, plus jamais je me retourne vers l'État pour régler un de mes problèmes à moi. Puis je peux pas rentrer dans les détails parce qu'il faudrait qu'on en parle pendant des heures, mais jamais. Si j'ai un problème dans ma vie personnelle, je me retourne vers l'État pour lui demander de m'aider parce que je vois comment quelqu'un qui cherche du pouvoir peut tout utiliser en sa faveur. Tout.
Je suis honoré de me retrouver dans ton spectacle suite à une entrevue avec Anne Cazabod où on a parlé de circoncision et d'élection. J'ai pogné de quoi quand je suis en train de lire ça. C'était une entrevue pour les gens qui s'en souviennent pas que... Et ça avait pris une certaine tendance.
Ça a pris une tendance. Puis moi, j'ai comme beaucoup de Québécois, j'écoute votre émission. Puis ce moment-là m'avait frappé parce que à ce moment-là, moi, je me disais, tout le monde a jeté les gens qui étaient contre les vaccins aux poubelles. Puis je trouvais ça honorable que vous donniez une tribune aux gens pour qu'ils s'expriment.
Ben, qu'ils défendent leur point de vue.
Ben oui, moi, c'est ça que je dis dans le spectacle. T'sais, je veux dire, pour moi, dans une démocratie, il n'y a rien de plus sain qu'offrir une tribune à quelqu'un avec qui tu n'es pas d'accord. C'est la nature même de la démocratie pour moi. Donc, ça m'a vraiment marqué quand elle avait sorti ça. J'ai dit, là, c'est pas fair. Le gars, il t'invite, lui. Mais c'est vraiment un des moments qui rendait le plus heureux les gens. C'est fou comme tu sais, quand on dit votre nom dans une salle, il se passe vraiment quelque chose. Les gens savent très bien le...
Mais j'avais pas vu venir la question, pour être bien honnête. Merci beaucoup d'être venu ce matin.
C'est moi qui vous remercie. Merci infiniment.
Vous voulez plus de balado C23? Rendez-vous dans la section balado du 985fm.ca ou dans l'application Cogeco Média. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcan, les grandes entrevues de la semaine.
Stéphanie Raymond a fait partie des Forces armées canadiennes pendant quoi 12 ans. Elle avait obtenu un grade de caporal et elle s'est retrouvée propulsée à l'avant-scène alors qu'elle a accusé son supérieur d'agression sexuelle. Ça a été une opération complexe, longue devant le tribunal. Et vous allez voir que ça n'a pas été facile, c'est un combat complexe. Mais finalement, elle a eu gain de cause. Elle publie un livre avec Claudie Côté. Le titre, « Tu t'écriras non dans le front », c'est son combat contre les Forces armées canadiennes. Stéphanie Raymond, bonjour.
Bonjour.
Avant de parler de l'événement et des longues démarches judiciaires pour obtenir gain de cause, ce qui est très frappant dans votre livre, c'est que le choix de faire carrière comme réserviste, puis après ça, dans les Forces armées canadiennes, là, c'était pas un automatisme. Là, c'est un peu un concours de circonstances.
Oui, c'est un hasard. Y réfléchit un peu. Même moi, j'ai de la misère à l'expliquer pourquoi est-ce que je suis rentrée dans les forces.
Il y avait un kiosque d'information, puis vous êtes dit, bon, ben, peut-être
si j'avais 16 ans, ben, pourquoi on va s'essayer?
Et vous décrivez un univers, j'allais dire, de travail pas facile pour les femmes.
Oui, c'est un peu difficile, mettons.
Qu'est-ce que vous voulez dire?
Ben, il y a beaucoup de sexisme et de commentaires. Beaucoup de pression aussi pour... avoir des relations sexuelles. Pour le sexe est toujours mélangé à tout, là, dans le fond.
Vous êtes victime d'allusions tout le temps, de commentaires, oui. De rumeurs.
Oui, vraiment, de paris d'avance.
De paris?
Oui. Il y a toujours des paris, là, qui va réussir à avoir la fille dans son lit, là. Chaque fois que tu arrives dans un cours, sur un cours, dans une unité, dans une section, il y a toujours ça. Il y a toujours les paris qui sont sur la table.
On n'est pas dans les années 50, là.
Non, c'est ça. J'étais pas encore née, malheureusement, dans ce temps-là.
Mais ce que je veux dire, c'est que encore aujourd'hui, ou en tout cas à votre époque, c'était comme ça que, enfin, c'était le comportement de plusieurs, là, la majorité, oui. Visiblement.
Oui, c'était une normalité. Même encore dans ma génération, c'est encore un peu une normalité de penser comme ça. C'est plus extrême dans l'armée, mais je le vois encore beaucoup là, dans la société présentement. Là. Les commentaires que je reçois. Là. Pas tout le monde, là, mais je veux dire, il y en a beaucoup. Là.
OK, mais ça veut dire que vous deviez grandir comme réserviste pour, au sein des forces armées dans un environnement toxique. Là.
Oui. Faut s'adapter à la toxicité pour continuer, sinon tu y arriveras pas. T'sais, c'est un boys club, t'sais, comme d'autres endroits, mais tu dois faire toi-même tes efforts pour t'adapter, et c'est là que il y a une ligne qui est floue peut-être, justement, là.
Il y a eu une enquête de la juge Deschamps. Est-ce que vous pensez que ça a changé quand même, qu'à votre époque, c'était pas possible de dénoncer, ou en tout cas, sans en subir les conséquences? Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que c'est possible?
Non.
Une jeune femme qui vous écoute, là, qui pense à aller faire carrière.
Moi, je suis du style vivre et laisser vivre. Si vous voulez faire carrière, go, allez-y, là. Mais là, depuis hier, j'en reçois des messages de femmes sur Facebook qui me disent qu'ils sont présentement en train de vivre ce que je raconte dans le livre, là, les représailles, la perte de carrière et tout, là.
OK. Revenons à l'événement. Votre agresseur, c'est un adjudant, c'est votre supérieur, M. Gagnon. Et je résume un peu, là. C'est une soirée dans la veille de Noël, on est au mois de décembre, tout le monde est là, on prend un verre, on boit du vin, puis c'est un party. Et là, ça glisse. En même temps, c'est votre supérieur, mais vous lui faites confiance.
Oui. Parce que j'ai pas de raison de pas lui faire confiance, en fait. Tu sais, faut beaucoup mettre en contexte. Si cette personne-là était une femme, en fait, pourquoi faudrait tout le temps penser qu'un homme est malsain ou est un futur agresseur, tu sais? J'avais pas de raison de penser qu'il dépasserait les limites ou même qu'il s'essayerait, tu sais.
Et vous êtes allé à l'extérieur, vous avez marché et tranquillement, vous vous êtes retrouvé aux messes des officiers.
Exact. C'est ça, c'est une longue série d'événements qui fait que qu'on se rend au manège militaire pour que je puisse aller aux toilettes, les choses obligent. Puis dans le fond, c'est lui veut me parler, il désire me parler de certaines choses, puis j'avais un peu en tête quelque chose que ça pouvait être, mais finalement il s'était pas vraiment parlé qu'il voulait, là, c'était plus passer à l'acte.
Et il l'a fait.
Ouais.
Et vous avez dit non.
Oui, j'ai dit non, tu sais.
Au début, en tout cas, vous avez dit non.
Oui, tu sais, des fois, c'est des synonymes, des fois, c'est tout, mais tout montrait que je voulais pas. Tu sais, je le disais, puis je le démontrais, puis je participais pas non plus.
J'avais jamais entendu parler d'un argument qui a été présenté, parce que la cause a été débattue devant un tribunal militaire, ce qu'on appelle la croyance sincère, mais erroné du consentement. Donc, de croire sincèrement qu'il y a eu consentement, oui. Même si c'est pas vrai.
Oui.
Aviez-vous déjà entendu parler de ça?
Moi, je le savais à l'époque. Je savais que ça existait. Je savais aussi que quand c'était présenté à un jury, 99% des chances qu'il va être acquitté parce que le bénéfice du doute est trop important, est trop favorable à l'accusé avec cette défense-là. Mais on comprend la nécessité. On peut comprendre qu'il y a des cas pour lesquels cette défense-là est réellement bonne. Mais faut justement la baliser, puis elle avait jamais été balisée par la Cour suprême.
OK. Dans votre cas, pourquoi il croyait sincèrement, mais de façon erronée, qu'il y avait un consentement de votre part?
Dans son cas, c'était le fait que les lumières étaient fermées dans la pièce, même si on voyait. Étant donné que j'acceptais d'être dans une pièce avec un homme, avec des lumières qui étaient fermées, ça voulait dire que je consentais un rapport sexuel. Puis le fait que je restais là aussi beaucoup, le fait que je partais pas, que je restais là. C'est des observations que l'adjudant aurait fait, qui aurait compté comme des mesures raisonnables. Mais ça l'a visiblement pas marché, là.
Non, mais ça a pris du temps, par exemple, pour
ouais.
que, puis là, je vais sauter quelques étapes, mais pour que la Cour suprême se prononce. et que finalement, lui-même plaide coupable, avoue, après quoi, 10 ans, je pense?
Oui, après 10 ans.
Qu'il s'est reconnu coupable d'avoir posé les gestes qui lui étaient reprochés.
Oui.
Pourquoi il a décidé de plaider coupable, vous pensez?
On le saura jamais, mais les victimes, dont moi, on reçoit des rapports après que notre accusé, il a fait de la prison, puis lui, il a jamais avoué sa culpabilité. En fait, en vérité, là, puis il se voit encore comme une victime, même tout le long. Fait même après 2 mois, il comprend pas pourquoi, selon sa mentalité, ça devrait pas être une agression à cause qu'une femme est par défaut ouverte. T'sais, elle doit prouver qu'elle veut pas, mais normalement, c'est accessible. C'est comme quelque chose que tu peux prendre, à quel t'as droit, là.
Tu peux poser les gestes sur elle, oui, que tu veux, parce que, exact, tu penses que c'est accepté, parce, oui, que à fige, par exemple.
Exact. C'est je peux croiser une femme dans la rue, commencer à la caresser, puis c'est à elle de me dire non, puis là, j'arrête. T'sais, encore là, faut déjà là que t'arrêtes, là, mais c'est cette vision-là, ouais.
Je vais vous poser une question qui est pas facile, mais vous en parlez dans le livre. Le fait d'avoir participé à un concours comme Hawaiian Miss Tropic, le fait d'avoir fait des photos pour une revue comme Summum, pensez-vous que comme témoin, encore aujourd'hui, ça vous nuit ou ça vous a nuit?
Oui, ben ça m'a nuit parce que on dirait qu'il n'y a rien qui peut t'aider en victime. J'aurais eu, je dis ça un peu en joke, j'aurais eu un gros nez ou tu sais, j'aurais eu n'importe quoi, les dents croches, puis on aurait parlé de ça, on se serait servi de ça. Oui, il y a beaucoup un mythe, on n'aime pas, la société.
Ben, si une fille pose dans ce genre de revue, ouais, c'est une fille facile, fait que c'est sûr, oui, qu'elle veut.
Puis elle le fait, moi j'ai entendu dire, un homme qui pose dans ces revues-là, c'est parce qu'il veut augmenter son répertoire, veut coucher avec plus de filles. Fait qu'on on pense que je fais ça pour essayer de coucher avec le plus de gars possible.
Il y a un autre élément dans le livre qui est assez troublant. Puis c'est pas juste pour l'événement dont on vient de parler, c'est la réaction de vos parents.
Oui.
Et je comprends que la relation était pas bonne au départ, là. À l'adolescence, ça a été difficile. Vous racontez, je pense, une pièce de théâtre où votre mère est pas restée parce qu'elle avait honte de vous voir sur scène. Ça a été quoi l'attitude de vos parents à partir du moment où vous avez porté une plainte puis jusqu'à la fin des procédures?
Moi, j'ai essayé de le dire à la dernière minute, justement, par peur de mauvaise réaction. Mais c'est tellement complexe, la psychologie humaine, qui est que ils m'ont peut-être appuyé en secret, mais malheureusement, ils me l'ont pas vraiment démontré, puis je l'ai pas ressenti. Puis c'est pour ça que je le raconte dans le livre, parce que c'est mon ressenti. Je trouve ça juste. Eux autres, dans leur cœur, à eux, ils me supportaient, apparemment, mais c'est pas vraiment comme ça que ça. Puis par après, quand je l'ai sorti, c'est sûr que c'est un peu gênant.
C'est quoi, hein? C'est la honte sur la famille?
Oui, ça a tiré. C'est un événement qui est comme gênant. Je suis comme une personne nulle si découvert. Maintenant, elle était agressée. Elle est comme plus bonne, là. Elle est comme bizarre. En tout cas, on est un peu jugé. Maintenant, c'est sûr, ça paraît bien. Là, je passe dans les médias, je vais avoir un livre, il y a un documentaire. C'est facile plus facile d'être fier, mettons. T'sais, ça n'enlève rien. C'est peut-être pas de mauvaise foi, mais malheureusement, c'était triste.
Vous aviez besoin d'aide, oui, dans les moments les plus difficiles.
Ouais, vraiment.
Puis vous avez pu compter sur quelqu'un, votre conjoint, oui, je pense, qui était avec vous.
Oui, qui a eu une énorme pression parce qu'il était, mon pilier, dans le fond. C'était pas la seule personne qui m'appuyait, mais reste que dans tout ce que je vivais au quotidien puis qui me conseillait, c'était lui. T'sais, puis je veux dire, même sans lui dire, était mon unique pilier, ben lui, il le sentait. T'sais, c'est...
Il va y avoir, vous l'avez dit, un documentaire de 90 minutes, ça s'appelle, oui, L'agression armée.
Oui.
Et une fiction également de 6 épisodes, Le Manège. Tout ça va sortir en 2025.
Oui, OK.
C'est ce qu'on nous dit.
Ben oui, pour la série. Le documentaire, dans le fond, il sort demain, je crois, de Gaëlle Dinglemort, la scénariste. Ça fait déjà plusieurs années qu'elle travaille là-dessus. Là. C'est plusieurs années de recherche et d'enquête journalistique.
Est-ce que ça valait la peine quand vous faites, oui, le pour et le contre de ce que vous avez vécu?
De mon cas, oui. Nettement, là, je trouve que l'avancée, puis j'en sors sereine, j'ai pas de frustration ou quoi que ce soit. Je suis vraiment contente de l'avoir fait.
Merci beaucoup d'être venu ce matin. Stéphanie Raymond, le titre du livre, Tu t'écriras non dans le front, son combat contre les forces armées canadiennes, par Claudie Côté.
l'essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine.
Maintenant, la presse publie des chiffres ce matin sur la maltraitance des personnes les plus vulnérables, c'est-à-dire les personnes âgées et les personnes handicapées. On comprend que les lois ont changé, mais c'est quand même en un an une augmentation, dit-on, de 120%. J'en parle avec Marie Beaulieu. Elle est titulaire, elle a été, pardon, titulaire de la chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées pendant 12 ans. Elle est prof à l'École de travail social de l'Université de Sherbrooke. Madame Beaulieu, bonjour.
Oui, bonjour, Monsieur Arcand.
Est-ce que l'augmentation, quand même impressionnante, là, de 120%, c'est dû strictement au fait qu'on a modifié la loi, qu'il y a maintenant des mécanismes clairs, connus, qui permettent aux gens de dénoncer?
Il y a certainement un ensemble de facteurs qui vont nous permettre de comprendre cette augmentation-là, mais vous avez raison, la loi a été modifiée au printemps 2022, et on a une loi qui est maintenant plus claire qu'elle était avant. C'était une loi qui datait de 2017, mais on a précisé en 2022 le signalement obligatoire. On a instauré des formations dans le réseau de la santé et des services sociaux. Et dans ce signalement, on a aussi bien, bien informé le public qu'il y a deux endroits pour signaler des situations de maltraitance. Soit le commissaire aux plaintes et à la qualité des services dans le réseau de la santé et des services sociaux, mais aussi dénoncer de façon plus claire à la police, parce qu'il y a quand même un bon nombre de situations de maltraitance qui peuvent être traitées en vertu du code criminel. Donc, je pense que tout ça a aidé pour faire comprendre. En même temps, on a eu des campagnes de sensibilisation qui fait que maintenant, les gens reconnaissent mieux ce qu'est la maltraitance. On a arrêté de voir de façon plus spécifique uniquement la maltraitance physique pour englober la panoplie. Et d'ailleurs, les chiffres de ce matin sont intéressants parce que ce qu'on voit qui est le plus signalé, c'est maltraitance financière, mais c'est aussi maltraitance psychologique.
Quand on parle de ces deux types de maltraitance, est-ce qu'on parle d'abord de gestes posés par des proches, par l'environnement, dans la famille, le fils, la fille? Est-ce que c'est la plupart des cas, c'est relié à la maltraitance, donc au sein des familles?
Ben, là encore là, c'est intéressant les chiffres de ce matin parce qu'on nous dévoile que dans les données qui sont amassées par les commissaires aux plaintes et à la qualité des services, donc dans les plaintes qu'ils reçoivent, 60% viennent du domicile, puis un 40% qui viennent d'autres milieux, comme les CHSLD, comme les résidences privées pour aînés, d'autres types de milieux collectifs pour aînés. Alors qu'il y a plus que 60% des aînés qui vivent à domicile, hein. C'est un bon 80-85% des gens qui vivent à domicile. Et on pourrait penser que les situations de maltraitance à domicile, c'est principalement les proches. Et c'est pas toujours le cas. Ça peut être aussi des dispensateurs de services à domicile. Ça peut être du voisinage. Donc, ça, pour moi, c'est très intéressant. Et on a aussi toute cette question de la maltraitance en milieu d'hébergement où il faut avoir une vision élargie. Il n'y a pas que les intervenants qui peuvent être maltraitants. Parce qu'au Québec, on reconnaît la maltraitance organisationnelle, donc la structuration des soins et des services. On reconnaît qu'il peut y avoir des agressions entre résidents. Donc, c'est vraiment une panoplie de situations. Bien qu'on voit plus facilement les familles, ce n'est pas que les familles.
L'autre question, Mme Beaulieu, qui me vient en tête, parce que je lis parfois des rapports de coronaires qui concernent des établissements, résidences personnes âgées, centres de soins de longue durée. Et souvent, puis là, c'est pas nécessairement de la maltraitance, quoi que ça peut le devenir, mais c'est souvent de la négligence, où on découvre qu'une résidence, par exemple, a été sous-financée par l'État pour les services nécessaires, pour avoir le personnel requis de base pour donner les services. Et comme ce personnel est absent, il peut y avoir une chute, il peut y avoir, comme vous dites, un bénéficiaire qui en attaque un autre. Bref, l'État a sa part de responsabilité dans la maltraitance des personnes âgées.
D'abord, je vais vous préciser que toute la question de la négligence est bien comprise dans la définition de la maltraitance, okay. Parce qu'on reconnaît qu'il y a de la violence et de la négligence. Maintenant, la question que vous me posez m'amène beaucoup sur les aspects organisationnels, hein, c'est ce qu'on appelle vraiment les déterminants organisationnels des pratiques. Puis effectivement, il y a une réflexion qui s'est posée, et peut-être que là-dessus, la pandémie nous a aidés à voir encore plus clair, c'est-à-dire, est-ce que les différents milieux sont bien dotés d'un personnel suffisant, un personnel bien formé, un personnel qui sait reconnaître la maltraitance, la prévenir. Et je vous dirais même, les dernières années, au Québec, on essaie d'instaurer de plus en plus ce qu'on appelle une culture de bien-traitance. Donc, c'est pas juste de ne pas maltraiter, mais c'est aussi de s'assurer, dans la mesure du possible, qu'on traite très bien nos aînés. Donc, il y a un changement qui se fait. On voit, on questionne et effectivement, il y a des pratiques qu'il faut modifier.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Marie Beaulieu est donc prof associée à l'École de travail social de l'Université de Sherbrooke, titulaire de la chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées pendant une douzaine d'années. Et je n'avais parlé que la ministre Sonia Bélanger la dernière fois, là, parce que c'est un cas, là. La machine de la santé, le mammouth de la santé, regarde, puis je dirais, donne pas trop de ressources, mais quand le drame arrive, quand un bénéficiaire se blesse ou se tue, puis qu'il y a comme un rapport de coroner qui sort avec des recommandations, whoop, comme par hasard, les enveloppes sont regarnies, et là, on donne plus de services. Et moi, je persiste à dire qu'il y a une responsabilité de l'État, c'est pas un individu, mais on va te donner du budget si on est obligé de le faire. Sinon, arrange-toi avec les moyens du bord, comme on dit.
Vous écoutez Balado du dimanche, une présentation de C23. Vous voulez plus de balado? Abonnez-vous à l'Essentiel de Paul Arcand sur Apple Balado, Spotify ou Google. Un nouvel épisode tous les jours en semaine vers midi. Après la pause, ça tient la route avec Benoît Charrette.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.